Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Indonésie demande le soutien des pays membres de l'OMI pour réaliser le PSSA du détroit de Lombok. Partenariat de recherche Australie-Indonésie étend la recherche à Sulawesi. Ambassadeur indonésien est optimiste quant au fait que les investissements japonais en Indonésie continueront d'augmenter. Ministre de la Main-d'œuvre présente sa mission de protection et d'égalité des travailleurs à la Conférence internationale du travail. Direction générale de l'immigration détermine la zone de coordination pour les agents d'immigration à l'étranger. Ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'envoi de troupes de paix à Gaza relevait d'un mandat de l'ONU. L'Indonésie discute de la coopération dans l'industrie de la défense avec la Slovaquie. Bon, chers auditeurs, voici le nouvel en complet. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère des Transports, demande le soutien des pays membres de l'Organisation maritime internationale, OMI, pour faire du détroit de Lombok une zone maritime particulièrement sensible, PSSA. Le secrétaire de la Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports, Lolan Panjaitan, a déclaré mercredi dans un communiqué à Jakarta que le gouvernement indonésien proposait de désigner le détroit de Lombok comme PSSA depuis 2016 en guise de forme de rôle actif de l'Indonésie et son engagement dans la protection de l'environnement maritime. Lolan a expliqué que la proposition pour cette détermination devait être soumise lors de la 82e session de l'Organisation maritime internationale OMI et du Comité de protection de l'environnement marin MEPC du 30 septembre au 4 octobre 2024. Il a souligné l'importance de désigner le détroit de Lombok comme le PSSA en tant que forme de responsabilité de l'Indonésie de jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement maritime en tant que pays membre de l'OMI et membre du Conseil de l'OMI pour la période 2024-2025. Le partenariat de recherche Australie-Indonésie, PAIR, a investi plus de 125 milliards de roupies pour étendre la recherche à travers Sulawesi. Le consul général d'Australie à Makassar, Todd Dyos, a déclaré mercredi dans sa déclaration à Makassar. Ce programme offre une très bonne opportunité. Il serait bon que les chercheurs d'Indonésie et d'Australie travaillent ensemble pour aider à identifier des solutions politiques à des problèmes tels que le changement climatique et l'accès aux infrastructures. Todd a déclaré que le programme Australie-Indonésie était le seul partenariat international majeur axé uniquement sur Sulawesi. Le programme PAIR aligne la recherche sur les priorités nationales des gouvernements indonésiens et australiens, notamment le plan national indonésien de développement à long terme 2025-2045 et le plan directeur national de la recherche 2017-2045. Cette politique d'investissement à Sulawesi a été mise en œuvre après un essai réussi axé sur la province de Sulawesi du Sud. Le programme Sulawesi PAIR est basé à l'Université Hasanuddin de Makassar qui héberge le laboratoire PAIR du Centre Australie-Indonésie. Le Centre Australie-Indonésie, qui fonctionne depuis 4 ans, implique 11 universités de premier plan en Australie et en Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, et le gouverneur adjoint de la Banque d'Indonésie, Filianingsi Hendarta, ont accueilli une centaine d'investisseurs japonais potentiels au Forum indonésien sur l'investissement à Balesal, Shiodom, Tokyo, Japon, mercredi 5 juin 2024. L'activité ayant pour thème accélérer l'investissement durable en Indonésie a été organisée conjointement par l'ambassade de la République d'Indonésie à Tokyo, la Banque d'Indonésie et le ministère de l'Investissement, Conseil de coordination des investissements dans le cadre d'une série de promotions intégrées pour le commerce, le tourisme et l'investissement en 2024. L'ambassadeur Heri Ahmadi est convaincu que l'Investment Forum Indonesia est devenu une plateforme efficace pour partager des informations, construire des réseaux et créer des partenariats rentables entre l'Indonésie et le Japon. Dans une déclaration officielle reçue à Jakarta, l'ambassadeur Heri a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, le Japon figurait régulièrement parmi les 5 principaux investisseurs étrangers en Indonésie. Même l'année dernière, les investissements japonais ont augmenté de 9,2%, soit environ 4,6 milliards de dollars américains. Selon lui, cette relation étroite apporte de nombreux bénéfices aux deux pays. La ministre indonésienne de la Mandofra, Ida Fauzia, a déclaré que le gouvernement indonésien soutient la tenue de la 112e conférence internationale du travail comme moyen d'accroître l'engagement et la coopération dans le domaine de l'emploi entre les pays membres de l'Organisation internationale du travail. Dans un communiqué de presse du Bureau des relations publiques du ministère de la Mandofra, mercredi 5 juin 2024, la ministre Ida a dirigé la délégation indonésienne dans une série d'événements de la Conférence internationale du travail qui se sont tenus à Genève, en Suisse, du 3 au 14 juin 2024. L'Indonésie a pour mission de protéger les travailleurs, l'égalité et la continuité des activités. La 112e Conférence internationale du travail a soulevé le thème d'un contrat social renouvelé. Selon la ministre, cette conférence est un moment important pour que chacun puisse exprimer les aspirations et les intérêts de l'Indonésie dans les forums internationaux. Il a ajouté que cette conférence est une opportunité de contribuer à la formation de normes et de politiques internationales du travail juste et durable. La Direction générale de l'immigration du ministère indonésien du droit et des droits de l'homme détermine la zone de coordination des agents d'immigration à l'étranger. Cela a été fait pour remédier à la situation du nombre limité d'attachés d'immigration et de personnel technique par rapport au nombre de représentants indonésiens existants. Le directeur général de l'immigration du ministère du droit et des droits de l'homme, Silmi Karim, dans un communiqué de presse de la Direction générale de l'immigration de Jakarta, a déclaré mercredi 5 juin 2024 que cette détermination servirait de base à la réalisation de la devoir et fonction des attachés du personnel technique et des chefs de l'immigration en dehors de la zone de service. Son parti veille également à ce que les normes de mise en œuvre des devoirs et fonctions d'immigration dans toutes les missions indonésiennes à l'étranger restent conformes à la réglementation applicable. Silmi Karim a déclaré qu'actuellement, seuls 22 représentants indonésiens ont des attachés d'immigration, contre un total de 186 représentants indonésiens dans le monde. Il espère qu'en établissant cette zone de coordination, la mise en œuvre des devoirs et fonctions d'immigration dans toutes les missions indonésiennes à l'étranger pourra se dérouler de manière plus optimale et standardisée. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné que l'envoi des forces indonésiennes de maintien de la paix à Gaza, en Palestine, serait effectué si elle recevait un mandat des Nations Unies, ONU, après une réunion de travail avec la Commission 1 de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie au complexe parlementaire de Senayan, Jakarta, mercredi 5 juin. Retno a expliqué que le gouvernement coordonne actuellement l'envoi de troupes pour mener à bien une mission de paix à Gaza. Elle a déclaré que le gouvernement coordonnait également le discours visant à évacuer 1000 Palestiniens vers des hôpitaux en Indonésie. Retno Marsudi a déclaré que le ministère indonésien des Affaires étrangères était impliqué dans le processus de coordination. Auparavant, le ministre de la Défense Prabowo Subianto avait déclaré que l'Indonésie était prête à envoyer des troupes de maintien de la paix à Gaza pour maintenir et surveiller le cessez-le-feu entre la Palestine et Israël. Alors qu'il assistait à la 21e réunion du dialogue Shangri-La de l'Institut international d'études stratégiques à Singapour samedi, Prabowo a expliqué que cette étape était l'engagement de l'Indonésie à maintenir la paix à Gaza et à soutenir un cessez-le-feu entre la Palestine et Israël. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a discuté de la coopération dans le développement de l'industrie de défense avec l'ambassadeur slovaque en Indonésie, Thomas Verko, au bureau du ministère de la Défense de Jakarta mercredi 5 juin. Dans un communiqué officiel du secrétariat général du ministère indonésien de la Défense, il a été déclaré que la Slovaquie est l'un des pays dotés d'une industrie de défense de qualité sur le continent européen. La qualité de l'industrie de défense est même considérée comme équivalente aux normes de l'OTAN. Prabowo est donc optimiste quant au fait que cette collaboration promettra divers avantages à l'industrie de défense indonésienne. Outre le renforcement de la défense, cette coopération devrait pouvoir encourager la croissance de l'industrie de défense nationale, notamment dans les domaines de la production, de la technologie et de la maintenance des principaux équipements des systèmes d'armes. Prabowo espère également que cette coopération pourra améliorer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Slovaquie. Bonjour, je vous remercie tous les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici le cadre diplomatique et un peu le titre. En organisant l'IGFD 2024 à Sendai, l'ambassadeur Harry invite les citoyens japonais à visiter le pavillon indonésien à l'exposition universelle 2025 à Osaka. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Japon, Harry Ahmadi, a déclaré que 2025 était un élan important pour la diplomatie indonésienne au Japon. L'Indonésie participera à l'exposition universelle de 2025 à Osaka. L'ambassadeur Harry a déclaré cela dans son discours d'ouverture du festival indonésien au Festina à Sendai, préfecture de Miyagi, dimanche 2 juin, cité dans un communiqué officiel. Festina fait partie du programme de promotion et de services intégrés de la Journée de l'amitié Indonésie-Japon, IGFD à Sendai, du 31 mai au 2 juin 2024. Festina a réuni plus de 200 citoyens indonésiens et japonais. À cette occasion, l'ambassadeur Harry Ahmadi a invité le peuple japonais à assister au pavillon indonésien à l'exposition universelle de 2025 qui portera sur le thème de la nature, de la culture et de l'avenir conformément à l'esprit des objectifs de développement durable. Le pavillon indonésien sera stratégiquement présent aux côtés des pavillons australiens et de plusieurs organisations internationales. Comme fait partie de l'IGFD Sendai 2024, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo fournit des services et consultations consulaires et autres, tels que des services éducatifs et financiers. Cette activité a réuni plus de 300 citoyens indonésiens et membres de la diaspora vivant au Japon. L'ambassadeur Harry a profité de cette occasion pour souligner l'importance de l'autodéclaration pour les citoyens indonésiens au Japon. L'ambassade d'Indonésie à Tokyo, au Festina, est également présente pour promouvoir les produits indonésiens à travers un mini-bazar. Dans le cadre de la série d'activités IGFD Sendai 2024, L'ambassadeur Harry a également rencontré le gouverneur de Miyagi, Murai Yoshihiro. Ils ont discuté du renforcement de la coopération dans les domaines de l'emploi, de la recherche et de l'industrie halal. Pendant ce temps, lors d'une réunion avec le maire de Sendai, Kohri Kazuko, l'ambassadeur Henry a encouragé la formation d'une association communautaire indonésienne et de Sendai pour faciliter la communication et renforcer la confiance mutuelle entre les peuples des deux nations. Leurs activités comprennent l'organisation de la Journée internationale de l'amitié indonésienne à l'été 2025 à Sendai. L'ambassadeur Henry a également exprimé la même chose lors de sa rencontre avec l'Association internationale de Miyagi, MIA. C'était la Clé diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 juin 1901, la naissance de Sukarno. Sukarno est né à Surabaya dans l'est de Java le 6 juin 1901. Sukarno, mieux connu sous le nom de Bung Karno, est un homme politique qui a joué un rôle important dans la révolution nationale indonésienne. Avec Muhammad Hatta, Bung Karno a proclamé l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945. Sukarno fut le premier président de la République d'Indonésie de 1945 à 1967. Bung Karno fut la première personne à créer le concept de Pancasila comme base de l'État indonésien. Nous continuons avec l'événement sur le succès de l'équipe féminine indonésienne de badminton en remportant la Coupe Uber pour la première fois. L'Uber Cup est un championnat international de badminton pour les épreuves par équipe féminine qui a lieu tous les deux ans. Le 6 juin 1975, l'équipe féminine indonésienne de badminton composée de Teresia Widestuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumira, Minarni Sudaryanto et Regina Masri a réussi à devenir championne après avoir battu le champion en titre du Japon avec un score final de 5-2 lors du match final. Cette victoire était spéciale car elle a été créée devant le public à l'Istora Senayan, Jakarta. La paire de Minarni Sudaryanto et Regina est devenue déterminante dans la victoire d'Indonésie après avoir battu la paire japonaise Hiroyuki et Mika Ikeda. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la Journée mondiale des toits verts. Le 6 juin est célébrée la Journée mondiale des toits verts. En ce moment, les villes du monde entier font le reboisement pour nettoyer leur empreinte carbone existante et s'adapter au changement climatique. La planète est en situation d'urgence climatique et les toits verts seront une grande partie de la solution. Un toit vert est un toit vivant où l'espace sur le toit peut accueillir des buissons, des arbres et des plantes pour protéger l'environnement. La politique des toits verts a été mise en œuvre pour la première fois en 1979 en Allemagne. La communication de la Journée mondiale des toits verts vise également à sensibiliser à l'importance des toits verts dans la lutte contre le changement climatique. C'est Julita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur, hancur cintaku.
sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le président inaugure la pépinière de Mentawir pour la réhabilitation des forêts de Kalimantan. Le président Joko Widodo a inauguré mardi 4 juin 2024 la pépinière de Mentawir dans la résidence de Penajam Pasir Dunong, province de Kalimantan Oriental. Selon le président, cette inauguration constitue une étape importante dans les efforts du gouvernement pour procéder à la réhabilitation et à la replantation des forêts en Indonésie. Le président Widodo a également souligné l'importance des pépinières comme base pour reverdir la capitale Nusantara, IKN, ainsi que la région de Kalimantan Oriental et ses environs. Le président a déclaré que la pépinière Mentawir a une capacité suffisamment grande pour accueillir jusqu'à 15 millions de graines de plantes par an. Cela permet à l'Indonésie de réhabiliter les forêts endommagées et de récupérer l'exploitation minière de manière efficace. Par ailleurs, le président a également déclaré que la construction d'un centre de germoplasme dans la pépinière de Mentawir marquait un pas en avant dans la conservation de la biodiversité. La biobanque et la banque de graines de la pépinière stockeront des graines de plantes importantes telles que le soria et le driobalanop, de plus en plus difficile à trouver dans la nature. Le président a également souligné que l'inauguration de la pépinière de Mentawai reflète non seulement l'engagement de l'Indonésie en faveur de la réhabilitation de l'environnement, mais fait également partie de l'engagement mondial visant à lutter contre le changement climatique. En dehors de cela, d'autres pépinières dans diverses régions d'Indonésie montrent également le sérieux du gouvernement dans la préservation de l'environnement. Il a ajouté que l'inauguration de la pépinière de Mentawai offre un nouvel espoir pour les efforts visant à préserver l'environnement et à équilibrer l'écosystème d'Indonésie et constitue une étape importante dans la préservation de la biodiversité pour les générations futures. Après avoir inauguré la pépinière de Mentawai, le président Joko Widodo a invité un certain nombre d'ambassadeurs et de dirigeants d'institutions internationales à procéder à une inspection et à expliquer les différents types de graines de plantes présentes dans les pépinières de Mentawai. Les ambassadeurs ont également donné leurs impressions et exprimé leur admiration pour les efforts déployés par l'Indonésie pour promouvoir le reboisement avec une approche basée sur la diversité des arbres. Lando et Kevin Tokar, chef de la coopération au développement à l'ambassade du Canada en Indonésie. Selon lui, cet effort fait partie d'un avenir vert et durable pour l'Indonésie. De même, Caroline Truk, directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Indonésie et le Timor-Leste, a également admis avoir vécu une expérience intéressante lors de sa visite à la pépinière de Mentawai. Il a qualifié cette pépinière d'initiative extraordinaire du gouvernement indonésien. D'autre part, Christian Netland, chef de mission adjoint à l'ambassade de Norvège à Jakarta, a également apprécié l'inauguration de la pépinière de Mentawai. Il a estimé que la pépinière Mentawai était très bien organisée et utilisait une technologie de pointe. Il a déclaré que la Norvège apprécie l'initiative de l'Indonésie visant à procéder au reboisement et soutiendrait cet effort. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Berikanlah aku satu senyum saja.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tards, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, les feuilles de pandanus sont généralement utilisées comme ingrédients alimentaires, mais dans le village de Tenganan, dans la résidence de Karangasem à Bali, les feuilles de pandanus sont utilisées comme armes dans une tradition de guerre pandanus. La tradition carré-carré, communément connue sous le nom de guerre de pandanu, est une tradition qui se pratique chaque année le Sasih Kalima, le cinquième mois de calendrier spécial du village de Tenganan Pegeringsingan. Basé sur la calendrier du village Tenganan, la tradition tombe en juang. Selon les croyances locales, la tradition mukare-kare ou tradition de guerre pandanus est réalisée en hommage au seigneur Indra ou le dieu de la guerre, et aussi les ancêtres. Cette tradition fait également partie de la cérémonie Sasih Sembah, la plus grande cérémonie religieuse du village Tenganan. Ces rituels d'une durée de 2 jours, la tradition mukare-kare commence par une cérémonie pour demander la sécurité et un rituel consistant à verser de tuak, une boisson alcoolisée traditionnelle, les uns sur les autres. Un chef traditionnel donnera le signal du début de la guerre. La guerre se fait en binôme. Ensuite, les participants à la guerre des pandanus danseront et frapperont occasionnellement les pandanus à pointe sur les autres participants. Même si le corps saigne, les participants ont toujours l'air heureux, car c'est l'une de leurs expressions de gratitude et une façon d'honorer le seigneur Indra. Une fois la guerre terminée, les participants blessés sont enduits d'une concoction traditionnelle à base de curcuma et d'huile de noix de coco pour les soigner. Il n'y a ni vengeance ni colère après le match, car tous les participants le font sincèrement dans le cadre d'une cérémonie traditionnelle. La tradition mukare-kare utilise les âmes pandanus épineuses comme propriété principale. Le pandanus épineux est coupé à la même taille, puis attaché comme une masse, une arme de guerre. Les participants à la guerre pandanus porteront également un bouclier en rotan pour se protéger. Les hommes qui participeront à la guerre pandanus ne portent qu'un pareo ou kamen, un châle ou saput, un bandeau ou udeng, sans vêtements torse nu. La guerre des pandanus est accompagnée de musique gamelan slodin. Le slodin est un instrument de musique tenganan qui ne peut être joué que par des personnes sanctifiées. Cet instrument n'est pas non plus joué de manière négligente, mais seulement à certaines occasions. C'est Julie Talk, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Sama-sama.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la culture de tempe soumise au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La culture de tempe a été officiellement soumise par la communauté via le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie au secrétariat de l'UNESCO pour être incluse dans la catégorie « liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ». La soumission a été faite fin mars 2024 et actuellement en attente d'être discuté par le secrétariat de la Convention UNESCO de 2003. Le directeur de la protection culturelle à la Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la Technologie, M. Yudi Wahyudin, est optimiste quant au fait que la culture de tempe s'ajoutera à la liste du patrimoine culturel immatériel indonésien de l'UNESCO. La culture tempe est le savoir traditionnel et la technologie des ancêtres indonésiens visant à fournir une nourriture riche en nutriments et en d'autres avantages. Concernant cette proposition, le Forum indonésien de tempe en tant qu'une des équipes initiatrices espèrent le soutien de toute la communauté afin que le tempe continue d'être durable et de plus en plus mondial. Made Astawan, le président du Forum indonésien du tempe, a déclaré que le tempe pouvait désormais être trouvé et consommé dans 27 pays. Divers bienfaits pour la santé résultant du processus de fermentation du soja en tempe ont également été obtenus de diverses manières, à la fois grâce à la diaspora communautaire et grâce aux résultats des diverses études menées à travers le monde. On ne sait pas encore avec certitude qui et comment le tempeh a été découvert pour la première fois par nos anciens ancêtres. La seule preuve que le tempeh est consommé par les Javanais depuis plusieurs siècles provient de Serat Centini. Dans ce livre de littérature japonaise, il est indiqué que le tempeh est devenu un plat japonais et faisait partie de divers rituels communautaires du XVIe siècle. Sur la base de ces preuves, depuis 2014, le Forum indonésien du tempeh, en collaboration avec diverses institutions liées au tempeh, a mené des initiatives visant à introduire le tempeh dans le monde. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie. Diffuseur depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Menceritakan cantikmu kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Sajritar, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Hedy Yunus intitulée Suratku, avec Maudry. Chanteur Hedy Sulaiman, ou mieux connu ou sous le nom de Hedy Yunus, est un acteur et chanteur indonésien. Son nom est largement connu comme l'un des chanteurs du groupe de musique Kahitna. Cependant, il est également un chanteur solo qui a produit plusieurs albums à succès. L'une d'elles est la chanson Suratku qui figure dans l'album du même titre sorti en 1995. Cette chanson créée par Yofi Widianto décrit la relation de quelqu'un qui n'est plus avec son amant car ils ne sont plus compatibles. Par conséquent, il a envoyé une lettre à son amant pour exprimer son cœur. Bon, Chajuitar, voici la chanson de Hedy Yunus intitulée Suratku. Bonne écoute!
Ku tahu pasti hatimu tak tahu pasti hatimu tahu walau tak baca suratku.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.